Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
WebWest présente La question en question avec Yann Dallaire et Jean Fontaine. Qui? Comment? Où? Combien? Yann Dallaire, bonjour.
Bonjour, Jean Fontaine.
Bienvenue à La question en question. Et on va parler de vêtements aujourd'hui.
Ben oui.
T'as des beaux vêtements. Hein? T'as un t-shirt, t'as des jeans.
Une chance qu'on fait de la radio.
Oui, on fait... Et notre question, ben, la prémisse d'abord, dans un monde où l'on consomme souvent sans trop y penser, nos choix vestimentaires ont un impact bien réel. La production, les conditions de travail, les conséquences environnementales font en sorte que de plus en plus de voix s'élèvent pour une mode plus raisonnable, on pourrait dire moins jetable jusqu'à un certain point. Et notre question aussi cette semaine, c'est est-ce que vous tenez compte de l'origine de vos vêtements? Est-ce que ça fait partie de votre processus décisionnel? Comment vous les choisissez, vos vêtements? Alors, Yann Dallaire, je te pose la question.
Tu me poses la question.
Toi qui n'es pas, je veux dire, ni toi ni moi, on est des gens très, très à la mode. Ou en tout cas très, très... qu'on ne suit pas les modes plus qu'il faut. Mais c'est quoi, toi, ton interaction avec les vêtements?
Bien, j'ai quelque chose contre la mode. Okay. En général. Puis la mode vestimentaire, c'est une chose. Mais toutes les modes, en général, tu sais, moi, j'ai acheté une maison qui était très ancrée dans les années 70. C'était un vieux monsieur, puis il n'avait jamais rien rénové. Puis, quand je l'ai acheté, on était peut-être, mais début 2010, là, dans les années 2015 à peu près. Et puis, elle avait tellement un cachet extraordinaire parce qu'elle était très ancrée dans, tu sais, du mahogany, puis les clichés des années 70. Ouais. Là, elle n'avait vraiment pas changé. Puis, on était capable de la louer pour faire des films tellement... C'était spécial qu'elle n'ait jamais été rénovée, tu sais. Puis moi, ça m'a fait dire, ben tu sais, ça ne donne rien d'essayer de courir après, changer ta cuisine, parce que là, la mode des 10 prochaines années, ça va être blanc. Mais là, après ça, là, le blanc, c'est comme complètement inacceptable. Ça se peut plus, là. Il faut que ça soit comme un autre style. Il faut que tu te rattrapes, puis il faut que tu rénoves. Puis bien sûr, il faut que la consommation tourne, puis il faut que tu achètes de plus en plus. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose avec les vêtements. Moi, une paire de jeans puis un T-shirt, là, puis... Je suis très content.
Oui.
Puis, ça me tente pas d'embarquer dans plus que ça, puis de me forcer pour suivre une mode, tellement que je trouve que c'est un petit peu ma marque de commerce de ne pas suivre la mode.
D'accord.
Puis, c'est comme ça qu'on me prend, puis c'est comme ça que je suis. Fait que ça fait que je consomme vraiment pas tant que ça de vêtements.
T'es pas en train de t'acheter des vêtements à chaque deux semaines.
Par contre... Je ne regarde pas pantoute d'où c'est que ça vient.
Oui, ça peut venir du Bangladesh, du Vietnam ou peu importe. Mais toi,
tu ne saurais pas
ton T-shirt en ce moment, il vient d'où?
Non.
D'accord. Non, et ça ne te dérange pas?
Non, parce que j'ai commencé à feuilleter le livre de notre invité. Et puis, en tout cas, j'aurai des choses à dire quand on va le présenter comme il faut, parce que je trouve ça assez scandaleux. Je trouve ça me fait un peu mal au cœur même. Mais... Puis je vais te parler d'une chemise aussi qu'une de mes amies s'est faite donner en cadeau. Elle s'est faite donner en cadeau une chemise, puis quand on l'a vue, elle nous a dit « Ah, regardez la belle chemise que je porte, c'est ma copine qui me l'a donnée, puis je suis très contente. » Sur l'étiquette, il y avait la provenance du tissu qui avait été utilisé et le « markup », c'est-à-dire le profit. Parce que c'est une chemise qui avait été faite à la main. Alors, on a investi sur la chemise que tu as payé quand même 125$. Il y a 20$ de tissu. Il y a les boutons. Il y a 12$ de boutons. Donc, tu avais le profit. Tu étais capable de voir le profit qui était fait par cette chemise-là au producteur.
Mais c'est une façon de justifier que c'est un prix beaucoup plus élevé que ce que tu vas trouver chez Winners.
Exactement, parce qu'on a payé l'artisan comme il faut.
Oui. Mais d'accord, moi, j'ai un peu la même relation que toi avec la mode, mais moi, mon premier souci, c'est le confort. Je veux que mes vêtements soient confortables, que ce soit des jeans, que ce soit des joggings, que ce soit des cotons ouatés, je veux que ça soit confo. Mais j'avoue, puis c'est un petit peu gêné de l'admettre, Mais les marques m'attirent parfois, tu sais.
Ah, oh, oui.
Adidas, okay. Par exemple. Je vais dire, ah, ben, tu sais, c'est cool avec les trois lignes puis tout ça, tu sais. Puis j'aime ça, les vêtements qui reflètent un peu le sport.
D'accord.
Mais en même temps, c'est pas si important que ça pour moi, tu sais. Oui. Je suis pas... Le matin, là, je me casse pas la tête pour m'habiller. D'habitude, oui. Je prends le premier T-shirt qui est sur la pile, puis that's it, puis les pantalons qui sont là.
Et d'où vient-il?
Bien, c'est ça. Ça, c'est... Là aussi, moi, je suis un peu gêné de le dire, mais je vais pas essayer de consommer canadien, par exemple. Peut-être que je vais faire plus maintenant, mais j'ai pas eu le temps de vérifier ce que j'ai chez moi, mais probablement que j'ai plein de vêtements qui viennent du Bangladesh, qui viennent du Vietnam. Alors, je sais que je contribue un peu à ce cycle infernal. Peut-être pas de la mode jetable dans mon cas, parce que je jette pas beaucoup de vêtements. J'en donne parfois à la charité, mais je contribue quand même sans doute à une économie où les employés sont sous-payés, sont peut-être même maltraités. Et puis, ben voilà. Alors, non, j'ai pas... c'est pas super glorieux, ma façon de magasiner des vêtements. Alors, je ne sais pas si notre invité va encore nous aimer après qu'on ait avoué autant de choses. Il s'agit d'un invité qui revient pour une troisième fois à la question en question. Philippe Gendreau, il est enseignant au secondaire, auteur d'un nouvel essai qui vient tout juste de sortir, d'ailleurs, qui est intitulé « Mode jetable » dans la collection Radar aux éditions Éco-Société. Bonjour, Philippe.
Salut à vous deux.
Est-ce qu'on te désespère un petit peu par nos propos?
Non. Puis tu vois, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de ce sujet-là, je me dis, ah, les gens vont me demander qu'est-ce que je porte. Et si je suis un exemple aussi. Donc, au moment où je vous parle, j'ai pas vérifié les vêtements que je porte, leur provenance. Mais mon objectif n'est pas de culpabiliser les gens, mais comme d'amener la conscience de chaque achat qu'on fait. Puis moi, un peu mon projet, hein, c'est vraiment de réduire ma consommation. Puis c'est vraiment d'éviter d'aller chercher, voir s'il y a quelque chose qu'on peut peut-être s'acheter. Peut-être ramener ça aux besoins. Tu sais, quand nos bottes sont finies, il n'y a plus moyen de changer la semelle, ben on est dû pour changer nos bottes. Et quand on est rendu qu'il manque d'espace dans le placard pour mettre nos bottes, c'est peut-être là qu'on a une question à se poser. Fait que c'est la dépense à outrance. Puis la provenance, d'avoir conscience de ça. Moi, écoute, Yann, si tu pouvais m'avoir une photo de cette étiquette-là, là, j'en serais ravi, là. Parce que l'étiquette dont tu parlais...
Oui, je pourrais trouver ça, oui.
Hey, si tu peux m'avoir ça là, en photo, là, j'adorerais ça, parce que c'est à ça qu'on doit aspirer. Si on pouvait faire des choix comme ceux-là, basés sur la raison, dire « je comprends pourquoi cette chemise-là est un peu plus chère, parce qu'on a payé équitablement tous les gens de la chaîne pour le produire
».
Mais c'est quand on parle justement des compagnies qui misent sur la mode jetable, comme les marques qu'on nomme tout le temps, là, mais Zara, H&M, Gap encore aujourd'hui, puis une série de marques, plus surtout les compagnies comme Shein puis Temu, les compagnies chinoises. Là. Fait que c'est là qu'il faut que vraiment on fasse un examen de conscience. Pourquoi on a besoin de tout ça?
Oui, bien c'est ça. C'est parce que là, cette espèce de mode jetable, c'est qu'on achète des vêtements qu'on porte une, deux, trois fois, puis après, on veut changer. Et puis ça, ça vient aussi beaucoup des influenceurs. Il y a des jeunes qui regardent TikTok. Ah, tiens, lui, il porte ça. Moi, je vais porter ça. Puis là, trois semaines après, on veut changer parce que c'est plus ça qui est à la mode. Est-ce que c'est un phénomène de société, ça, Philippe?
Je pense que oui, parce que, tu sais, dans le livre, j'aime partir de l'exploitation en Amérique, des esclaves qu'on est allé chercher, qu'on a volé à leur vie en Afrique, puis à qui on faisait produire du coton dans des conditions exécrables. Puis on le sait, hein, les fortunes qui sont construites sur l'exploitation à l'époque, mais encore aujourd'hui, il y a des fortunes qui se font avec l'exploitation. Fait que c'est sûr que si on regarde le phénomène aujourd'hui, ben il est pas né d'hier là, il est vraiment ancré dans une tradition d'exploitation capitaliste qui a pris des visages différents, puis à chaque fois on nous a justifié que c'était une façon peut-être de donner une occasion à certains pays qu'on appelait en voie de développement. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle plus de sud global. Mais on leur a donné une occasion de s'épanouir économiquement. Alors que dans le fond, c'était une façon pour exploiter à visage couvert, puis avec des grandes compagnies qui sont, encore une fois, parce que je reviens à ça comme dans GAFAM, c'est des compagnies qui ne paient pas leur juste part. Oui. Donc, ils font de l'évasion fiscale, puis ils ne payent pas leur impôt comme ils devraient le payer, et ils ne paient surtout pas leurs employés comme ils devraient le payer.
Donc, tu sais, tu parlais de l'esclavage qui avait lieu, par exemple, au 19e siècle, au 18e siècle, mais là, on est encore dans le même mode, dans le fond. Les sociétés capitalistes, ceux qui sont à la tête des grosses industries, des gros joueurs, les gros vêtements, ils vont embaucher, par exemple, quelqu'un au Bangladesh qui va faire 128 $ par mois, c'est dans ton livre, 128 $ par mois, 12 heures par jour de travail. On est encore dans... Mm-hmm. C'est pas de l'esclavage proprement dit, mais on en est quand même pas loin. On est dans l'exploitation des humains, là.
Bien, c'en est. Puis, tu sais, des enfants qui sont prêtés, vendus, loués, ça se fait. En Chine, on a entendu parler des Ouïghours, donc une communauté en Chine qui est exploitée par, justement, le gouvernement chinois qui a comme préparé des camps où il y a véritablement une concentration de personnes Ouïghours qu'on fait travailler de force. Et sur des vêtements qui sont vendus ici par le biais d'entreprises comme, justement, Shein, Temu. Puis ça, c'est documenté, il faut enquêter. Puis même les États-Unis menaçaient de sanctionner certaines entreprises. Il faut arriver à faire la preuve que ton vêtement a été produit dans des circonstances où on peut parler d'exploitation. Puis ça, ça nécessite une enquête. Le gouvernement chinois et pas le gouvernement a laissé... n'importe qui entrer sur son territoire. Fait que souvent, c'est des preuves qui vont être faites clandestinement, des prises de caméra qu'on peut trouver où on voit des gens qui travaillent, qui sont exploités. Mais c'est ça, c'est tout un système qui est tellement bien huilé que le vêtement qui arrive dans le petit paquet Shein à la maison, qui s'ouvre là comme une petite expérience sensorielle formidable, puis on la personne qui l'a commandé découvre un vêtement qui a pu rêver pendant quelques jours parce que le transport se fait vite, bien, vient neutraliser la réflexion qui amène à penser où ça a été produit.
Mm-hmm. Puis souvent aussi, moi, je me dis, comment ce vêtement-là peut être aussi pas cher? Comment on peut arriver à acheter un T-shirt à 8 $ alors qu'il a été fait à l'autre bout du monde?
Ben t'sais, oui, parce qu'il y a le transport quand même. Exactement, je veux dire, il faut l'amener, le vêtement. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question.
Il y a un profit là, là-dessus. Oui. Là. Fait que, c'est sûr qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a du monde qui ne sont pas payés cher. C'est évident.
Puis en plus, on dit que des compagnies comme Shein peuvent vendre des vêtements à perte. Puis la raison pourquoi ils peuvent vendre des vêtements à perte, c'est qu'ils font leur profit avec autre chose. Donc, les données qui sont accumulées quand on passe du temps sur leur plateforme. Donc là, vous allez me reconnaître. Qu'est-ce que je viens faire dans la mode jetable alors que j'étais dans les GAFAM dans l'autre livre? Mais c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en ce moment comme phénomène, mais on revient un peu dans le livre, dans un chapitre, sur le fait que ces entreprises-là accumulent des données à notre insu, puis si jamais vos auditeurs ont Temu, qu'on dit, là, ben c'est dans les applications les plus voraces en termes de données. Et cette entreprise-là est comme sous l'égide, là, sous la propriété d'une compagnie en Chine qui s'appelle Pinduoduo, qui a été aussi enquêté en Chine pour vol de données et transgression de la vie privée. Fait que quand on se dit que le gouvernement chinois a enquêté sur une entreprise chinoise pour vol de données, la Chine s'en fait pas beaucoup habituellement la vie privée. Mais c'est ça, c'est que le gouvernement du Parti communiste chinois aime bien gérer les données, mais savoir qu'est-ce qui est fait de ces données-là. Alors qu'en Occident, là, c'est quasiment barre ouverte pour les données. Puis des enfants.
Oui.
Ouais.
Philippe, qu'est-ce que je peux faire si je veux devenir un citoyen exemplaire au niveau de la mode et de l'achat de vêtements?
T'es perdu.
Ouais. Pour vrai, hein?
Oui. Y a-t-il des choses qu'il faut que j'évite? Y a-t-il des magasins qu'il faut que sur lesquels je peux m'assurer que ça, c'est relativement correct?
Bien, là, tu m'as dit que tu vas être exemplaire. Moi, je ne peux pas t'aider à être exemplaire, OK? Parce que moi-même, j'aspire pas à être exemplaire, OK? Mais ce que je pourrais te dire, c'est si tu veux améliorer ta consommation, c'est comme je l'ai dit tantôt, toujours interroger la consommation qu'on fait, puis c'est pas moi qui invente ça, là. Ça fait quand même des décennies qu'on parle de la consommation à outrance, mais de se demander est-ce que j'en ai besoin. Puis souvent, les gens courent après le temps. Les gens courent aussi pour avoir plus de budget. Bien, de réduire notre consommation nous rend plus riches, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis l'autre, ben, c'est que si on a moins à courir, à travailler pour pouvoir arriver à payer tout ce dont on rêve et plus encore, ben, on va redécouvrir du temps pour nous parce que justement, le temps supplémentaire qu'on fait pour payer plus, fait que ça, déjà en partant, là, réduire notre consommation, tu transformes ta vie. Je sais que pour certains, on pourrait entendre ça, puis ça peut sembler être des vieux, des vœux pieux, là, ou des vieux vœux. Mais c'est que, c'est ça, il y a vraiment moyen de transformer ça. L'autre chose, ben moi, je te dirais, oublie Chienne, oublie tes mous, ne laisse pas autant que possible des jeunes générations découvrir ces plateformes-là, parce que c'est pensé pour que les jeunes deviennent addicts.
OK.
Mm-hmm. Ça, un jour, notre société aura à se poser des questions. L'humain a vraiment des inclinaisons aux dépendances. Et il y a des spécialistes, des pédopsychiatres qui travaillent à développer des stratégies pour rendre les enfants dépendants. C'est pour ça que dans le livre, je me suis risqué à parler de compagnies qui abusent des enfants. Puis je pourrais aller plus loin parce que si on s'arrête une minute, imaginez que vous avez des experts adultes qui se réunissent pour trouver des stratégies pour déjouer le sens critique des enfants. N'importe qui dirait que c'est des abuseurs.
Oui.
Mais quand arrive le temps de le faire sur des plateformes où on veut leur vendre des gadgets, des vêtements, etc., mais c'est comme si, c'est du commerce, c'est pas vraiment réglementé. Nous, vous savez, au Québec, hein, on a une loi particulière qui interdit la publicité faite aux enfants.
Oui, oui.
C'est rare dans le monde. Puis ça a été contesté jusqu'en Cour suprême du Canada parce que il y avait une compagnie de jouets, son nom, Irwin Toys, qui a poursuivi le gouvernement canadien en disant qu'on brimait leur liberté d'expression. Et ils ont perdu la cause. Donc, les compagnies ne peuvent pas dire « Hey, on brime leur liberté d'expression ».
Et Philippe, il y a Émilie qui nous a écrit « Chez nous, on adore les vêtements, alors j'ai élevé ma fille à prendre soin de ses vêtements et à faire des bons choix. Il y a assez de linge aussi sur la planète, ça c'est intéressant, pour trouver au moins 75% de ce qu'on cherche sur le marché de seconde main, donc les friperies. Est-ce que ça, c'est quand même un début de solution de dire « OK, plutôt que d'aller m'acheter du linge neuf, j'aime ça avoir des nouveaux vêtements, mais je vais aller à la friperie du coin. »
Je vais commencer par les bonnes nouvelles. Émilie, super bonne idée, prendre soin de nos vêtements. Prendre soin de nos vêtements, c'est la base. Peut-être qu'on lave trop aussi. Hein? Donc, il y a un questionnement à faire sur le type d'entretien qu'on fait avec les vêtements, les particules de plastique qui se détachent, qui s'en vont dans l'eau, qui s'en vont dans l'océan. Maintenant, on est informé de tout ça. Donc, le lavage, on n'a pas besoin d'être obsédé là-dessus, mais évidemment, on entretient, puis on a une bonne hygiène, aucun problème avec ça, mais il y a peut-être des choses qui sont lavées trop souvent. Puis, l'autre chose que je voulais dire aussi...
Le second sujet des friperies.
Oui, par rapport aux friperies, ben tu l'as dit, hein, Jean, on dit qu'il y a assez de vêtements pour habiller tout le monde sur la planète jusqu'en 2100 sans produire de nouveaux vêtements. Okay? Ouais. Ça, c'est au moment où on se parle. Mais les friperies, on dit que les friperies, il y a une mode en ce moment hein, qui génère de l'intérêt pour les friperies, c'est que l'industrie du luxe adore ça parce que comme LVMH qui appartient à Bernard Arnault, là, un multimilliardaire vraiment qui abuse de son pouvoir, de son autorité. Il y a même eu des procès pour malversation en France. En tout cas, c'est à suivre, là. Mais cet entrepreneur-là adore qu'il y ait un culte de fait à ses marques, Dior, Louis Vuitton. Et ce que les gens vont aller chercher dans les friperies, c'est souvent des marques comme celle-là aussi. Donc, c'est comme si on continue, on perpétue par rapport aux grandes marques. Et si on y va de vêtements de seconde main, disons, d'usage courant ou qui sont pas griffés, intéressant. Mais on dit que statistiquement, les gens qui achètent des vêtements usagés les portent encore moins souvent qu'un vêtement qu'ils auraient acheté neuf. Ça veut dire que, ah ben, au prix que ça coûte le T-shirt, là, je peux en avoir de toutes les couleurs possibles.
Oh.
Mais, encore une fois, je veux pas faire le rabat-joie. J'essaie de donner ce qui a été démontré, puis que les auditeurs se fassent une tête là-dessus, puis disent, mais comment je suis, moi, quand je vais à la friperie? Ben, je suis conséquent, je fais des choix, je suis pas dans l'abus, mes vêtements, je les jette pas, les tissus qui peuvent être recyclés, je vais les donner aussi pour qu'ils soient reconvertis autrement. Puis il y a plein d'entreprises qui vont reconvertir maintenant les vêtements. On est dans le développement de cette technologie-là.
Peut-être une dernière problématique que j'aimerais soulever, c'est l'eau, parce que ça prend beaucoup d'eau pour faire des vêtements. Et dans ton livre, tu dis que l'industrie de la mode est responsable de 20 % de la pollution des réserves d'eau de la planète. C'est immense, ça.
Puis tu sais, c'est l'eau qui est rejetée parfois avec le colorant.
Oui.
Puis en Inde, là, il y a des images, là, vos auditeurs peuvent aller voir ça dans le temps de le dire, là. Il y a une mousse épaisse qui se produit là dans les eaux usées comme celle-là, mais il faut comprendre aussi que dans des régions du monde comme celle-là, il n'y a pas moyen de filtrer l'eau comme nous, on peut arriver à la filtrer. Fait qu'il y a comme un désordre écologique avec des répercussions extraordinaires, mais surtout pour garnir les garde-robes des Occidentaux. Puis, il y a un autre paradoxe que je parle dans le livre, puis je reviens à l'eau dans un instant, mais c'est les vêtements qui partent de l'Inde, qui s'en viennent en Amérique, puis parfois qui vont retourner en Inde pour être triés, justement, pour le second main qui retourne en Europe. Fait, nos vêtements voyagent plus que nous. Fait, quand on parle de l'eau, c'est le transport en bateau, c'est les rejets. Puis c'est, comme je le disais tantôt, les particules de plastique qui se détachent des vêtements qui sont avec des fibres de plastique, hein, le polyester. S'il y a un conseil, tiens Yann, tantôt tu me demandais comment devenir exemplaire.
Oui.
Ben peut-être pas exemplaire encore, mais t'es bien mieux avec des sous-vêtements en coton que des sous-vêtements en polyester.
OK, OK. Qu'est-ce que
tu vois, je vais même jusqu'à là.
Qu'est-ce que je dois faire avec mes vieux vêtements? Est-ce que comment je fais pour m'en débarrasser de façon éco-responsable? Tu disais qu'il y avait certaines solutions, là?
Oui. Bien, je donne un cours d'entrepreneuriat avec des élèves ici. C'est la première année que je donne un cours comme ça avec deux groupes. Puis je leur ai montré un reportage d'une entreprise québécoise. Je pourrais vous faire parvenir le nom parce que là, je ne me souviens pas du nom comme ça. Puis eux ont développé plein de stratégies pour pouvoir garder les tissus, les reconvertir pour faire de la rembourrure de coussins, pour pouvoir faire aussi, ils vont fabriquer avec les retailles de tissus pour faire des T-shirts, mais les petites retailles sur les côtés, ils vont faire autre chose avec ça pour essayer de maximiser l'utilisation des tissus.
Okay.
Donc, je pense qu'il faut rester conscient de ce qu'on achète et si on en a besoin. La première question, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Mais qu'est-ce qu'il faut faire en premier, c'est lire le livre.
Oui, lire le livre de Philippe Gendreau, exactement. Mais je pense qu'on peut... Puis moi, j'ai l'intention, en tout cas, d'être plus prudent dans mes achats puis de voir d'où ils proviennent, ces vêtements-là. Mm-hmm. J'aime beaucoup l'idée de l'étiquette qui nous dit exactement qu'est-ce qui est payé puis qu'est-ce qui... Où vont les profits, etc., etc. Ben écoute, c'est une belle prise de conscience. Évitez Temu aussi, puis évitez peut-être même Amazon, tant qu'à moi, mais ça, c'est je vais ajouter ça.
Je ne l'ai pas nommé, mais tu as tout à fait raison, autant qu'on peut.
D'accord. Et puis, Philippe Gendreau, toujours un plaisir, mon cher, notre invité chouchou qui revient quand même assez régulièrement. Mm-hmm. Et c'est toujours un plaisir de te parler. Philippe Gendreau est enseignant au secondaire, auteur d'un nouvel essai intitulé « Mode jetable » dans la collection Radar aux éditions Éco-Société. Le voici, d'ailleurs, il nous le montre à l'écran. Et puis, vous pouvez vous procurer ça. Allez sur Internet, faites « Mode jetable » Philippe Gendreau et on va vous allez trouver.
Allez sur Timou.
Oui, oui!
Ils l'ont pas, mais vous pouvez l'avoir en numérique, par exemple.
Le livre est disponible dans toutes les bonnes friperies. Merci infiniment, mon cher Philippe. Ça a été un plaisir.
Toujours un plaisir.
Merci beaucoup. Merci Yann Dallaire.
Merci Jean Fontaine.
À la semaine prochaine.
Bye-bye.
Vous venez d'entendre une production de WebWest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus.